l'a répété maintes fois que l'immigration sera au centre donc de son administration. C'est une question qu'il comptait régler et donc voilà quoi. Il a pris des mesures la semaine dernière. Peut-être c'est le choc qui fait que les gens sont un peu perdus parce que personne n'osait. On se disait peut-être que c'était des propos de campagne et une fois qu'on se retrouve dans le bureau ovale, on va peut-être être un peu plus souple et prendre le temps d'organiser doucement les réformes. Mais Trump n'est pas allé de cette façon. Il a voulu faire aller tout de suite et vite et avec ce décret, donc il faut le rappeler, hein, ce décret qui a cours jusqu'à 120 jours, qui met fin au programme de réfugiés des États-Unis, qui interdit de façon définitive les réfugiés syriens ici aux États-Unis et donne 90 jours de suspension hein, aux gens venant de sept pays musulmans, si on peut dire, hein, dominés par les musulmans. Il s'agit notamment de l'Irak, de l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, et puis la Syrie et le Yémen. Donc, c'est un peu ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on parle de l'immigration.
Voilà. On va revenir d'ailleurs sur ce décret tout à l'heure. Le temps pour nous d'accueillir Souleymane Konaté depuis New York. Souleymane, bonsoir.
Oui, bonsoir, mon frère John. Comment ça va?
Je vais très bien, merci. Vous êtes imam de la communauté musulmane de New York. Comment est-ce qu'au sein de votre communauté, vous accueillez tous ces décrets de Trump sur l'immigration?
Nous sommes à l'état de peur. Hein. Tout le monde a peur. Maintenant, la communauté est mélangée. Les gens se cherchent un peu partout. Parce que comme l'autre l'a dit tout à l'heure, ton collègue l'a dit. Hein,
Bagassi, oui.
Parce que les gens pensaient que c'était à propos des choses de campagne. Mais finalement, les gens sont surpris que le gars avait appliqué cela. Donc, ce qui fait que vraiment, même tout de suite à la mosquée, le vendredi, c'était le thème de notre sermon. Alors, pour informer la communauté, non seulement ça, on a fait venir des avocats aussi qui ont donné les informations et les renseignements sur aux gens. Parce que vraiment, le temps, là, il faut être en mesure d'informer les membres de la communauté. Alors, surtout les Africains. C'est vrai qu'il y a trois pays africains qui sont dedans, mais c'est nous sommes tous concernés. Parce que celui qui dit sept pays dominés par les musulmans, il dit tous les musulmans. Il a voulu essayer avec ces sept pays. Et si ça marchait maintenant, il allait maintenant impliquer d'autres pays, il allait ajouter d'autres pays là-dedans. Mais jusqu'à présent, comme les gens sont en train de mettre pression, Dieu merci, c'est bon.
Voilà.
Présentement, même où nous en sommes, il y a les musulmans aujourd'hui qui sont à l'aéroport de JFK, l'aéroport international de New York, en train de faire aujourd'hui la prière là-bas devant tout le monde parce que pour soutenir les pays cités là.
Tout à fait. Nous devrions justement avoir Bakary Tandja depuis ces lieux. Adama Faye, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes immigré et vous vivez également à New York. Comment vous allez?
Je vais très bien. Mais je dis justement que s'il y a quelqu'un qui dit que non, on est surpris par la décision de Donald Trump, il faut aller un peu en arrière pour voir que Donald Trump, s'il a des gens comme John Bannon et ces gens-là, Steve Bannon. C'est quelqu'un qui est radical, qui est contre les immigrés et les musulmans en particulier. Donc moi, je dis que je ne suis pas choqué. Et que Trump, comme je l'ai dit la dernière fois que nous avions eu à parler, que s'il veut vraiment avoir un second mandat dans un sens, il faut après ce qu'il avait promis.
Tout à fait.
Il va ramener les boulots qui sont déjà partis, ce qu'on appelle en anglais outsourcing, on va ramener les boulots. Mais on va aussi s'occuper de l'immigration. C'est aussi s'occuper du cas des musulmans aux États-Unis. C'est une religion qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur dans ce pays-là. Alors les gens ont peur.
Voilà.
Oui, les
Américains ont peur. Je dis bien que les Blancs américains ont peur.
Tout à fait. Bagassi voudrait.
L'immigration musulmane.
Bagassi voudrait dire un mot. Adama.
En fait, parce que c'est vrai que la ligne est difficile à savoir, mais c'est pas une interdiction qui vise une religion. Ça ne vise pas l'islam, hein, parce que ils l'ont dit et répété. Il y a plein d'autres pays musulmans qui ne sont pas visés par ce décret. Donc peut-être qu'il faudra qu'on essaie d'éviter peut-être cette. Je ne parlerai pas d'amalgame. C'est vrai que les pays qui sont visés sont à majorité musulmane, mais il y a plein d'autres pays qui sont musulmans qui ne sont pas concernés par ce décret. Et ce que je voudrais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens semblent choqués, mais c'est ce message que Trump a vendu donc, pendant sa campagne. Et les gens ont été convaincus. C'est pourquoi il est aujourd'hui à la Maison Blanche et je pense que cette politique convient à une bonne frange de la population américaine.
Alors, il faut souligner également que, à propos du décret dont vous parliez tout à l'heure, Bagassi, c'est que CNN nous apprend cet après-midi que depuis que Trump a signé ce décret, plus de 100 000 visas ont été révoqués dans le monde. Et comment vous réagissez à cette nouvelle, Souleymane Konaté? Est-ce que Souleymane
est... Tout à l'heure, là.
Oui,
ce que l'autre a dit tout à l'heure, là, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que les autres pays musulmans, on a vu que Trump a des contrats avec eux. Ces pays-là sont business partners avec Donald Trump, tels que l'Arabie Saoudite. Parce que, au fait, si c'est pour suivre les terroristes, bon, les coupables de septembre 11 ne sont pas de ces sept pays-là.
Tout à fait.
Quand tu regardes les sept pays-là, les coupables qui sont accusés au moment des choses de 9-11, ils ne sont pas de ces pays.
Alors, Bagassi, comment vous justifiez l'absence de l'Arabie Saoudite?
Parce qu'il a été demandé tout simplement, il est partenaire avec l'Arabie Saoudite, il est partenaire avec les Émirats Arabes Unis. Et certains pays. Mais quand tu regardes ces sept pays-là, tu vas trouver que Donald Trump n'a aucun partenaire avec eux, il n'a pas de business avec eux. Donc, lui, c'est ça. On trouve que ce n'est pas un problème de
Souleymane,
mais il veut s'attaquer aux musulmans en général.
Souleymane, laissez Bagassi vous répondre.
Oui, Souleymane, je pense qu'à un certain niveau,
Oui,
Souleymane, je pense qu'à un certain niveau, on dit tous la même chose. Hein. Juste que moi, je ne veux pas aller au niveau où on dit que c'est juste un décret qui vise une religion. Mais c'est vrai qu'il y a cette confusion qui donne un peu du poids à votre argument. C'est-à-dire que pourquoi l'Irak et l'Iran, pourquoi pas le Pakistan, par exemple, pourquoi pas
l'Arabie Saoudite, qui a déjà fait ses preuves en matière de terrorisme.
Voilà, donc c'est vrai qu'il y a cette confusion. Là, mais le décret ne spécifie pas clairement qu'on interdit aux musulmans de rentrer aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a ce flou, hein, il faudra en tenir compte. Mais jusque-là, certains musulmans de certains pays sont libres de venir et partir des États-Unis.
Alors, Adama Faye, comment réagissez-vous aux 100 000 visas révoqués dans le monde depuis que Donald Trump a signé ce décret?
Moi, je crois que, comme Donald Trump l'avait dit, que les États-Unis le travaillent d'abord pour les Américains. En fait, il n'est pas allé jusqu'à ce que disait Jean-Marie Le Pen, la France aux Français. Il n'est pas allé jusque là-bas pour dire que les États-Unis aux Américains. Mais il a bien dit le travail ici, on doit le donner d'abord aux Américains. Ça, c'est d'une part. Mais d'une autre part, si vous écoutez ce qu'on appelle les talk show hosts, les plus populaires ici. Ils se disent tout le temps que tous les terroristes ne sont pas musulmans, mais tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont des musulmans. Donc il y a un problème de sécurité ici, de sécurité nationale. Donc c'est d'une pierre d'un coup. Si on peut diminuer le nombre de musulmans qui vont venir aux États-Unis, c'est bien. Mais si on peut aussi interdire aux autres de venir aux États-Unis aussi, c'est bien. Mais il y a un problème de religion. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il n'était pas d'accord parce qu'on ne doit pas faire d'amalgame, parce que ce n'est pas un problème de musulmans, parce qu'il y a d'autres pays musulmans qui ne sont pas inclus dans
la liste.
Voilà, moi je dis bien qu'il y a un problème de comment on dit, il y a un problème de religion depuis 9-11. Il y a un problème avec les musulmans, ça c'est très clair.
Bon, Adama, merci. Je vais accueillir ici en studio Arzuma Compaoré, journaliste et collègue. Arzuma, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Quel est ton avis sur cette question d'immigration dont on parle dans cette émission aujourd'hui et que Trump tient à appliquer dans son plan?
Ben, je pense que ça cause un vrai problème, un problème réel. Mais je vais essayer de faire un peu un regard qui compare un peu avec la politique depuis les années maintenant hein, du voisin, le Canada, qui très énergétique et de très avancée va vers les différentes communautés extérieures et internationales pour vraiment attirer. Ils ont une politique très au point qui va depuis la formation même au niveau du pays même d'origine sur l'éducation des futurs professionnels qu'ils veulent amener dans leur industrie. Donc c'est aussi une question de vision. Je pense que dans toute la situation dans laquelle on est actuellement demande aussi qu'on puisse analyser aussi quelle est la vision en fait que chaque pays sous différents leaders a pour les différents professionnels qu'ils veulent accueillir.
Et justement, ça m'amène à évoquer donc l'un des sujets dont je parlais en début d'émission, c'est-à-dire l'immigration professionnelle. C'est-à-dire que est-ce que en dehors de cette immigration dont Trump ne veut plus ou des immigrés dont Trump ne veut plus, est-ce qu'on peut quand même espérer avoir une qualité dans le recrutement de ceux qui doivent venir ici aux États-Unis? Bagassi Koura, vous avez récemment fait une visite hein, à Los Angeles, il me semble.
À
San Francisco, pour voir là-bas comment les nouvelles technologies se développent. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'il y a la plupart des sièges de toutes les grandes compagnies technologiques du monde. Et vous constatez qu'il n'y a que les étrangers là-bas, dans la majorité.
Oui. Je crois qu'il y a un après-midi, on s'est amusé, on s'est arrêté à un carrefour où les gens venaient s'arrêter, traverser la rue à pied. Et on regardait combien de ces gens-là ressemblaient à des étrangers, non seulement par leurs origines raciales, par leur habillement. Et vous êtes fascinés. La Silicon Valley, la composition est totalement différente du reste des États-Unis. Et quand vous partez, je lisais tout à l'heure que la moitié des unicorns, c'est-à-dire que les entreprises start-up qui ont plus d'un milliard de dollars de valeur, donc sont fondées par des gens qui sont nés à l'étranger. Et vous avez un sérieux problème d'ingénieurs ici aux États-Unis. Google ne peut pas exister si vous fermez la porte aux ingénieurs du Pakistan, de l'Inde, de l'Europe, de l'Afrique, un peu partout. J'ai croisé plein de Nigériens qui travaillent dans des grosses compagnies, qui non seulement travaillent dans des grosses compagnies, mais d'autres ont leur propre compagnie et qui sont là, qui profitent de cet environnement. Et ces gens fabriquent des produits dans la Silicon Valley et doivent faire des va-et-vient pour aller proposer leur software à l'étranger, leur logiciel à l'étranger, pour aller chercher des clients. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, sont bloqués aux États-Unis parce que beaucoup ne sont pas sûrs s'ils sortent, ils vont pouvoir revenir. Et c'est un gros problème. En fait, ce débat, il est beaucoup plus intéressant de ce côté américain parce qu'il ne frappe pas seulement les gens au niveau individuel, mais à un niveau beaucoup plus macro, au niveau de la société même, où New York ne peut pas être New York si vous n'avez pas tous ces centaines de milliers d'immigrants qui arrivent chaque jour et que le lendemain, ils ont du boulot tout de suite. Et si on n'a pas cette main d'œuvre, votre restaurant risque de ne pas tourner et du coup, ça va jouer sur l'économie.
Adama Faye, vous vivez à New York. Comment est-ce que vous voyez ce sujet d'immigration professionnelle? Est-ce que, quelque part, l'Amérique n'a pas envie d'avoir de la qualité dans ces gens qui viennent aux États-Unis?
Non, mais il faut aussi conceptualiser. Qu'est-ce que vous voulez dire par immigré de qualité, comme l'intervenant qui vient de terminer ce qu'il a dit là. Ici à New York, moi je vis à New York. Donc si quelqu'un qui travaille comme boss boy ou bien comme waiter ou dishwasher dans les restaurants ici là, Michael Bloomberg, Julian, il avait dit il y a peut-être moins de 20 ans, il avait dit ça. Il avait dit que si vous si vous allez dans les métros à 2h du matin, vous ne voyez pas les natifs américains dans les trains qui sont en train de rentrer chez eux. Vous voyez des immigrés qui viennent de terminer leur chiffre, soit des gardiens, soit des gens qui sont dispatchés dans les restaurants ou bien des serveurs qui rentrent chez eux à cette heure-là. Donc, New York, sinon Silicon Valley, Palo Alto en Californie ne pourrait pas marcher, sinon les États-Unis même ne pourraient pas marcher sans les immigrés. Ça peut-être Donald Trump n'a pas cette vision-là, mais il y a deux entrepreneurs qui sont ici qui savent très bien que leur main-d'œuvre, ce sont justement la grande majorité des gens qui viennent de l'étranger. Donc ce sont ces gens-là qui font marcher les États-Unis, qui font marcher l'économie et qui gagnent le succès.
Oui. Alors, moi ce que je voudrais dire, c'est pas que l'immigration ne pose pas problème. C'est vrai, il y a un problème depuis des années, même avant Obama, depuis Bush. C'est un gros problème. Peut-être ce qu'il aurait fallu faire, ce que les gens attendent, c'est peut-être engager un débat au niveau de la société, au niveau du Congrès, engager une réforme qui allait aboutir, tenir compte de l'avis des hommes d'affaires, tenir compte des différentes confessions religieuses, tenir compte des différents partis politiques. C'est vrai qu'en Amérique, ce n'est pas facile, ce genre de questions, il y a des blocages rapides qui interviennent. Mais c'est cette réforme-là qui manque, et c'est pourquoi cette façon de gérer cette question de l'immigration par un décret, c'est aussi un choc, et beaucoup se disent que ça ne pourrait pas marcher, ça peut faire plus de mal que de solutions.
Alors, Souleymane Konaté, est-ce que vous êtes toujours là?
Là, oui.
Voilà. Souleymane, est-ce que dans votre communauté, quelle est la qualité de ceux qui fréquentent votre communauté? Est-ce que c'est des gens professionnels qui peuvent être utiles à la société ou c'est des gens qui sont oisifs?
Ce sont des gens qui sont oisifs. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Parce que la plupart de ceux qui fréquentent la mosquée, ce sont en général les chauffeurs des taxis. Je vais dire des choses. Les différentes compagnies de taxis, Green, etc. Donc, et puis les bus boys, ceux qui lavent les assiettes dans le restaurant, les petits marchands et ceux qui ont les tables au niveau des routes qui vendent à downtown. Donc, c'est ceux-là qui viennent à la mosquée généralement. Alors, professionnels, ça peut être des professionnels bangladesh, pakistanais, mais ils viennent prier avec nous. Mais présentement, nous sommes concernés. Alors, ceux qui viennent à la mosquée, parce que les gens ont peur actuellement. Et c'est pour cela que nous encourageons la décision du maire de Blasio, où il a dit qu'il est là pour protéger les immigrés et qu'il dit non à Trump. Jamais il peut toucher quelqu'un ici. Donc on a même eu une réunion hier à la mairie. Alors on nous rassure que la mairie est là pour nous. Le gouverneur de New York, c'est la même chose, c'est la même décision. Donc on demande même aux gens qui n'ont même pas de papiers de ne plus quitter New York. Parce que New York ici, aujourd'hui, les sans-papiers sont protégés. Tu peux travailler comme tu veux. Alors la City est là pour te protéger et la City aussi est prête à donner des avocats gratuitement pour défendre les cas et pour tous ceux qui sont arrêtés par l'immigration. Donc Dieu merci, nous supportons le programme du maire. Alhamdulillah, ça nous rassure.
D'accord.
Ça fait que bon, la peur est un peu écartée.
Tout à fait. Abdoulaye, j'allais dire Souleymane. Souleymane, on parle de ceux qui sont déjà ici aux États-Unis. On va prendre une petite pause et on va continuer le débat et voir si le rêve américain est toujours permis pour ceux qui ne sont pas encore dans le pays.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Pour ceux des auditeurs qui prennent l'écoute de ce programme en ce moment, sachez que vous êtes sur VOA Afrique, que vous écoutez l'Amérique et vous. Nous parlons aujourd'hui de l'immigration professionnelle aux États-Unis et du rêve américain. Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001-202-619-3140. Arzuma Compaoré, est-ce que, à votre avis, le rêve américain est toujours permis?
Personnellement, je pense que ma définition du rêve, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de lien avec une superficie ou un espace géographique. Pour moi, le rêve, c'est d'abord une question d'accomplissement, en fait, des projets ou des visions qu'on a personnellement. Et je pense que malgré ces difficultés, les États-Unis ont toujours occupent toujours en fait une place de choix en fait dans l'esprit de beaucoup de personnes à l'étranger. Si on va au-delà de ce problème qui, c'est vrai, cause un choc pour beaucoup et on ne sait pas exactement où est-ce que les nouvelles décisions que le président Trump est en train de prendre vont mener chacun. Mais c'est aussi l'opportunité pour d'autres personnes qui sont déjà sur place ici aux États-Unis de continuer à développer leurs rêves. Et notamment, en fait, pour ceux qui ont des business, beaucoup de chefs d'entreprise voient en ça un moment aussi pour pouvoir faire fructifier en fait leurs affaires.
Tout à fait. Donc, je vais prendre quelques réactions sur Facebook. Celle-ci est de Diallo Tierno Oumar Diallo qui dit « C'est très regrettable de le dire, mais en tant que citoyen du monde, je suis obligé de lancer l'alerte. Il n'y a plus d'espoir d'aller s'installer aux États-Unis, car à tout moment, l'administration Trump de Donald Trump peut créer des problèmes inutiles. » Je demande donc aux citoyens du monde d'éviter les États-Unis sous Donald Trump. Une autre réaction, celle de Ida Fobile, qui dit « Je n'ai jamais rêvé des États-Unis, j'aime mon Afrique, j'irai faire quoi là-bas ? Le président Donald Trump n'a pas de problème avec nous les Noirs, sauf ceux du Soudan et de la Somalie. Il a des problèmes surtout avec les Arabes musulmans qui font des attentats partout dans le monde. » Bagassi Koura, est-ce que le rêve américain pour vous est toujours permis ?
Oui, je pense que c'est permis, hein, parce que bon, c'est vrai que avec ce qui se passe depuis plus d'une semaine, les gens se posent des questions. Est-ce qu'ils pourront avoir cette liberté de construire leurs projets librement? Ceux qui veulent faire des va-et-vient, c'est-à-dire venir étudier ici aux États-Unis et rentrer au pays, développer leurs projets, se posent des questions. Est-ce qu'ils pourront construire ce pont-là entre leur pays d'origine et l'Amérique? Et ceux qui sont là, ils se demandent est-ce qu'ils pourront continuer à vivre tranquillement sans que on leur pose des questions, soit la police qui interpelle les gens dans les rues pour demander des papiers, des choses qu'on n'a pas connues ici aux États-Unis depuis toujours. Les gens se posent beaucoup de questions, mais je pense que le rêve, il est permis si les gens continuent, ici à suffisamment d'opportunités pour aller à l'école, pour étudier les meilleurs programmes, pour devenir ingénieur informatique, pour donc ça existe toujours jusqu'à ce que, bon, on se pose des questions, hein, il y a des lois qui changent, comment est-ce que les étrangers peuvent avoir accès à tous ces privilèges-là.
Adama Faye, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui est en Afrique qui rêve toujours des États-Unis?
Étudier le plus longtemps possible, avoir des diplômes et avoir la possibilité d'être international, sinon être pris par une compagnie américaine ou quelque chose d'autre. Voilà.
Voilà, Arzuma Compaoré, Adama parle des études et les nouvelles technologies aujourd'hui sont un domaine qui peut porter ici aux États-Unis et même partout dans le monde.
Tout à fait, et comme Bagassi Koura le disait tout à l'heure, il y a encore beaucoup de possibilités, il y a encore beaucoup de possibilités, et je pense qu'il ne faut pas jeter le blâme sur la situation. Ces procédures, en fait, cette difficulté que les gens se posent, c'est des choses qui existent déjà depuis longtemps. Hein. Seulement avec ces décrets, ça met vraiment à nu, en fait, et ça renforce un peu plus le besoin de vraiment prendre le soin et de prendre le temps d'analyser pour savoir, OK, qu'est-ce que je veux faire, quelles sont mes opportunités, quelles sont mes chances, quels sont les avantages que j'ai. Mais encore une fois, le rêve, il est là, il existe. C'est à chacun vraiment d'utiliser la loi, d'utiliser les règlements et d'utiliser les règles qui sont en cours pour pouvoir atteindre ce rêve.
Alors, on a cette réaction de Ernest Olorunchola qui nous dit « En tout cas, pour moi, le rêve américain est brisé pour toujours, enfin, pour les immigrants. » Souleymane Konaté, est-ce qu'au niveau de votre communauté, il y a des familles qui croient toujours aux rêves américains? Est-ce que les contacts que vous avez en Afrique espèrent toujours un jour réaliser un rêve américain, quel qu'il soit?
Pour moi, actuellement, et la communauté,
on sent que le rêve américain est brisé d'abord, surtout pour le main-d'œuvre. Si c'est au niveau de ceux qui viennent étudier, le rêve existe. Bon, pour ceux qui viennent pour le main-d'œuvre, le rêve est brisé. Pourquoi j'ai dit cela? Pourquoi? Parce que même, c'est vrai que c'est 7 pays qui sont cités. Mais présentement, à l'heure où je vous parle, il y a certains de nos compatriotes qui sont maintenus à l'aéroport. Ils sont partis chez eux dans leur pays, ou de leur pays natal, le Burkina Faso, sinon la Côte d'Ivoire, sinon le Mali. Mais parce qu'ils sont musulmans avec la green card, les agents actuellement d'immigration à l'aéroport international de New York leur causent beaucoup de problèmes. Cela veut dire que le dream américain, pour moi, le rêve, est brisé d'abord. Ce n'est pas dans le temps des choses, ce n'est pas dans le temps de Trump qu'on peut rêver. Le rêve américain, présentement, je suis d'accord avec ceux qui l'ont dit, est brisé. Pour ceux qui viennent travailler un peu pour construire ou bien pour soutenir la famille, vraiment, ça ne va pas du tout. Il faut un changement.
Alors, je vais lire cette réaction d'Alpha Dormoun, Barry, qui dit « Je suis pessimiste sur le rêve américain ». On va faire un dernier tour de table pour le mot de la fin, pour chacun de nous. Arzuma, en quelques secondes, le mot de la fin.
Le mot de la fin, hein, ça va être, il va falloir composer avec l'environnement. C'est comme toujours, les États-Unis, ça a toujours été l'Eldorado pour beaucoup, et ça ne va pas cesser d'être. Les gens vont trouver des voies et moyens de continuer à poursuivre leurs rêves.
Adama Faye, en quelques secondes, le mot de la fin pour vous. À Bagassi-Coura.
Si vous êtes là, vous travaillez, vous étudiez, vous faites ce que vous avez à faire.
Voilà, Bagassi-Coura, le mot de la fin pour vous.
Je pense qu'il y a toujours l'optimisme, hein, parce que toutes ces mesures-là sont temporaires, 120 jours tout au plus, et donc certainement il y aura de nouvelles mesures qui seront beaucoup plus favorables aux immigrants.
C'est la fin de cette émission L'Amérique et vous. John Lyndon était à la présentation. Merci d'avoir suivi et restez fidèles au programme de VO Afrique. Bonsoir.